La radio comme chorégraphie du silence avec la voix. Allez, en route.
It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. So peaceful until...
Bonjour Marilyn Maizeau.
Bonjour.
Y a-t-il une façon de parler du silence sans le troubler?
Peut-être, paradoxalement, en le faisant résonner, à la fois au sens de résonance et au sens de raison.
Peut-être aussi en chantant. Albert Camus naît en Algérie en 1913. De cette enfance passée sous le soleil méditerranéen, il en a fait le cœur brûlant de sa pensée, dans laquelle rien ne vaut le plaisir d'un bain de mer, d'un fruit juteux et d'un soleil qui déborde de tous les coins du ciel. Mais si Camus est un jouisseur, ce n'est pas par futilité ni par fuite, mais par consentement. Camus sait que le monde n'est pas là pour nous faire plaisir, que notre demande de sens est inaudible et condamnée à rester sans réponse. Mais encore faut-il pouvoir les formuler, ces questions sans réponse. Et c'est ce qu'a fait Camus toute sa vie. Philosophe, romancier, dramaturge, journaliste, jusqu'à l'obtention du prix Nobel de littérature en 1957 et sa mort accidentelle en voiture le 4 janvier 1960 à 46 ans. Camus est le penseur du silence, ou plutôt des silences. Celui délicieux des soirées à Alger quand le soleil décline, celui plus lourd de midi, celui déraisonnable du monde et de son indifférence à notre existence, celui de sa mère enfin, dont il ne doute pourtant pas de l'amour, et celui de notre époque, synonyme de terreur. Ce silence n'est pas audible, mais il est explicable. Et pour le faire, il suffit d'un mot, le point d'entrée dans la pensée de Camus, l'absurde.
Je veux que tout me soit expliqué ou rien. Et la raison est impuissante devant ce cri du cœur. L'esprit, éveillé par cette exigence, cherche et ne trouve que contradictions et déraisonnements. Ce que je ne comprends pas est sans raison. Le monde est peuplé de ces irrationnels. À lui seul, dont je ne comprends pas la signification unique, il n'est qu'un immense irrationnel. Pouvoir dire une seule fois « cela est clair » et tout serait sauvé. Mais ces hommes, à l'envi, proclament que rien n'est clair, tout est chaos, que l'homme garde seulement sa clairvoyance et la connaissance précise des murs qui l'entourent. Toutes ces expériences concordent et se recoupent. L'esprit, arrivé aux confins, doit porter un jugement et choisir ses conclusions. Là se placent le suicide et la réponse. Mais je veux inverser l'ordre de la recherche et partir de l'aventure intelligente pour revenir aux gestes quotidiens. Les expériences ici évoquées sont nées dans le désert qu'il ne faut point quitter. Du moins faut-il savoir jusqu'où elles sont parvenues. À ce point de son effort, l'homme se trouve devant l'irrationnel. Il sent en lui son désir de bonheur et de raison. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. C'est cela qu'il ne faut pas oublier. C'est à cela qu'il faut se cramponner, parce que toute la conséquence d'une vie peut en être. L'irrationnel, la nostalgie humaine et l'absurde qui surgit de leur tête à tête, voilà les trois personnages du drame qui doit nécessairement finir avec toute la logique dont une existence est capable.
Marilyn Maizeau, vous enseignez la philosophie à Nice, vous êtes doctorante, vous travaillez à une thèse qui porte en partie sur la pensée de Camus que vous appelez la fabrique de l'inhumain, dans lequel le silence joue un grand rôle. On vient d'entendre un extrait du mythe de Sisyphe, interprété par Yvan Morane. On peut commencer en disant que pour Camus, le silence n'est pas l'absence de son, mais l'absence de sens, ce qu'on appelle l'absurde.
Absolument. C'est-à-dire que ça n'est pas l'absence de son, c'est l'absence de son signifiant. Et ça, on le retrouve dans un certain nombre de textes importants de Camus, pas simplement dans le mythe de Sisyphe. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on se rend compte que le silence, qui est le silence du monde face aux appels et aux demandes de sens des hommes, est en fait la première violence. C'est une sorte de violence originaire ou violence originelle que l'homme expérimente et qui est... un divorce, c'est comme ça que Camus le formule, un divorce, c'est-à-dire on pensait finalement jusque-là que le monde avait un sens, que notre existence avait un sens, que tout formait un tout cohérent et signifiant, et d'un seul coup il y a une rupture, une fêlure, un divorce.
Il a cette phrase magnifique, l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Pourquoi déraisonnable et pas simplement irrationnel ou insensé ?
Déraisonnable parce qu'en fait, l'homme absurde ou l'homme qui fait l'expérience de l'absurde projette. C'est-à-dire que le monde devrait me répondre. Puisque j'ai des questions, il doit y avoir des réponses. Il y a ici le sentiment un petit peu d'une injustice en fait qui est faite à l'homme absurde. Et que mine de rien, on retrouvera dans l'homme révolté à travers l'image de la révolte métaphysique. C'est-à-dire, étant donné que je suis quelqu'un qui questionne, quelqu'un qui a besoin de sens, pourquoi le monde ne répond pas à mes appels alors qu'il le devrait ?
Mais ce monde est-il vraiment silencieux ?
Et justement non, c'est ça qui est intéressant, c'est que, comme on l'a dit, le silence du monde n'est pas un néant, n'est pas un pur néant, c'est un plein. C'est un plein, mais c'est un plein de sons insignifiants. Or, forcément, à partir du moment où ce qu'on cherche à entendre, c'est uniquement du sens, des sons signifiants, une réponse, on ne peut pas entendre le reste. On ne peut pas entendre quelque chose comme un silence qui serait un plein.
Et cette demande de sens, si le monde lui-même ne peut pas nous la fournir, est-ce qu'elle peut être satisfaite autrement ?
Satisfaite autrement.
Est-ce qu'on peut obtenir une réponse à cette question, à cette demande de sens, justement, si la réponse ne vient pas du monde, est-ce qu'on peut trouver du sens ailleurs que dans le monde ?
Trouver peut-être pas, en tout cas construire plutôt. C'est l'image de Sisyphe poussant son rocher, notamment la thématique de l'effort perpétuel, la thématique de la lutte aussi, c'est un autre terme qui apparaît souvent dans le mythe de Sisyphe. Donc c'est plus une construction qu'une découverte, quelque chose qui était déjà là.
Ça c'est fondamental pour, si on reste sur le mythe de Sisyphe justement, qui intéresse tant Camus, c'est que face à ce silence du monde, il serait facile peut-être de baisser les bras, de ne rien faire, de se lamenter de ce silence. Or il n'en est rien pour Camus, il faut se révolter, c'est-à-dire lutter contre le silence du monde en construisant peut-être un autre, un qui nous soit propre, c'est le sens de l'homme révolté. C'est dans l'action que nous pouvons apporter une réponse au monde, au silence du monde, et non dans le suicide finalement. Camus dit bien que le suicide est la seule question philosophique qui vaille. Eh bien le suicide serait peut-être logique, mais serait une manière de renoncer au monde.
Oui, et en même temps, ça n'est pas gratuit, si vous voulez. Camus ne dit pas, puisque le monde et l'existence n'ont pas de sens, alors il faut absolument leur en donner, il faut se battre, il faut lutter, je ne dis pas pourquoi. En réalité, c'est plus compliqué. Souvent, on a tendance à opposer le Camus de l'absurde, et puis le Camus de noces ou de l'envers et l'endroit, le Camus de la jouissance, le Camus du consentement, le Camus de l'admiration du monde. En réalité, dans le mythe de Sisyphe, déjà, on trouve cet aspect-là qui est très important, à travers notamment l'image de Sisyphe heureux. C'est-à-dire que ce que l'expérience absurde permet, c'est effectivement de faire ce divorce qui était nécessaire, de prendre conscience du fait que le monde n'a pas de sens, qu'il ne produit pas de son signifiant, mais c'est pour mieux finalement se rendre ouvert, se rendre disponible à l'écoute d'un autre silence, mais qui est un silence cette fois de plénitude, le silence des sons insignifiants du monde. Et c'est là qu'on a la deuxième thématique, la thématique de la jouissance, du consentement dans le mythe de Sisyphe.
On trouve cette phrase, hein, il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est-à-dire qu'ici, le bonheur de Sisyphe, qui pourtant, rappelons-le, est celui qui est condamné à pousser à vie, pour l'éternité, un rocher en haut d'une montagne, sans cesse, une fois que le rocher retombe, il doit le repousser, cette espèce de répétition tragique, qui est en fait celle de l'existence humaine. Quand Camus dit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, là on est dans une forme de consentement, c'est-à-dire que cette joie-là, elle est silencieuse parce qu'elle est celle du contentement, mais aussi celle du consentement, accepter sa condition humaine.
Et c'est là qu'on découvre en fait la cohérence de tout ça, parce que ça n'est pas comme si on avait d'un côté le Camus de l'absurde et puis le Camus de la jouissance et puis on ne sait pas trop comment les concilier. En réalité, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est Camus lui-même qui le dit lorsqu'il dit, toujours dans le mythe de Sisyphe, il n'y a pas de soleil sans ombre et il faut connaître la nuit. C'est-à-dire que pour pouvoir jouir du monde, pour pouvoir entendre ce silence insignifiant mais néanmoins magnifique, il fallait passer par l'absurde, il fallait passer par la nuit. Et c'est ce qui explique l'ensemble de jeux de contraste qu'on trouve dans l'ensemble de l'œuvre, pardon, entre révolte et consentement, entre exil et royaume, entre absurde et Sisyphe heureux, etc., etc. Même entre l'envers et l'endroit, au final.
Qu'est-ce que c'est l'envers et l'endroit ?
L'envers et l'endroit, c'est beaucoup de choses, mais c'est notamment cette image.
C'est un texte de Camus, hein, disons-le.
Oui, bien sûr. C'est un recueil qui est composé de différents textes de Camus et qui justement joue sur ces jeux de contraste entre la nuit et le soleil, entre la révolte et le consentement, entre le oui et le non, pour reprendre le titre de l'un des textes que contient ce recueil. Donc c'est finalement l'une des façons de thématiser l'importance du contraste et du paradoxe dans l'œuvre de Camus.
Dans L'Envers et l'Endroit, justement, qui est publié à Alger en 1937, hein, écrit entre 35 et 36, Camus a 22 ans, on y trouve peut-être une des explications l'intérêt de Camus pour le silence, ce qu'il vit comme un drame, et qui est pourtant pour lui aussi l'occasion d'accepter la tragédie propre à l'existence humaine, c'est le silence de sa mère. Camus était élevé par une mère silencieuse. Et dans L'Envers et l'Endroit, on trouve ce texte magnifique où il décrit non seulement sa mère, le rapport avec ses enfants et la façon qu'a eu ce silence maternel d'imprégner sa propre existence. Écoutez ce texte magnifique interprété par Yvan Morane.
La mère de l'enfant restait aussi silencieuse. En certaines circonstances, on lui posait une question. « À quoi tu penses ?»« À rien », répondait-elle. Et c'est bien vrai. Tout est là, donc rien. Sa vie, ses intérêts, ses enfants se bornent à être là, d'une présence trop naturelle pour être sentie. Elle était infirme, pensait difficilement. Elle avait une mère rude et dominatrice qui sacrifiait tout à un amour-propre de bête susceptible et qui avait longtemps dominé l'esprit faible de sa fille. Émancipée par le mariage, celle-ci est docilement revenue, son mari mort. Il était mort au champ d'honneur, comme on dit. En bonne place, on peut voir, dans un cadre doré, la croix de guerre et la médaille militaire. L'hôpital a encore envoyé à la veuve un petit éclat d'obus retrouvé dans les chairs. La veuve l'a gardé. Il y a longtemps qu'elle n'a plus de chagrin. Elle a oublié son mari, mais parle encore du père de ses enfants. Pour élever ces derniers, elle travaille et donne son argent à sa mère. Celle-ci fait l'éducation des enfants avec une cravache. Quand elle frappe trop fort, sa fille lui dit « Ne frappe pas sur la tête !» Parce que ce sont ses enfants, elle les aime bien. Elle les aime d'un égal amour qui ne s'est jamais révélé à eux. Quelquefois, comme en ces soirs dont lui se souvenait, revenue du travail exténuant, elle fait des ménages, elle trouve la maison vide. La vieille est aux commissions, les enfants encore à l'école. Elle se tasse alors sur une chaise et les yeux vagues se perdent dans la poursuite éperdue d'une ramure du parquet. Autour d'elle, la nuit s'épaissit dans laquelle se mutisse mais d'une irrémédiable désolation. Si l'enfant entre à ce moment, il distingue la maigre silhouette aux épaules osseuses et s'arrête. Il a peur. Il commence à sentir beaucoup de choses. À peine s'est-il aperçu de sa propre existence. Mais il a mal à pleurer devant ce silence animal. Il a pitié de sa mère. Est-ce l'aimer? Elle ne l'a jamais caressée puisqu'elle ne saurait pas. Il reste alors de longues minutes à la regarder, à se sentir étranger. Il prend conscience de sa peine. Elle ne l'entend pas, car elle est sourde. Tout à l'heure, la vieille rentrera, la vie renaîtra. La lumière ronde de la lampe à pétrole, la toile cirée, les cris, les gros mots. Mais maintenant, ce silence marque un temps d'arrêt, un instant démesuré. Pour sentir cela confusément, l'enfant croit sentir dans l'élan qu'il habite de l'amour pour sa mère. Et il le faut bien, parce qu'après tout, c'est sa mère. Elle ne pense à rien. Dehors, la lumière, les bruits. Ici, le silence dans la nuit. L'enfant grandira, apprendra. On l'élève et on lui demandera de la reconnaissance, comme si on lui évitait la douleur. Sa mère toujours aura ses silences. Lui croîtra en douleur. Être un homme, c'est ce qui compte.
Paris, ici Alger. Une petite visite m'a permis de voir tout à l'heure dans ce petit appartement du 93 de la rue de Lyon à Bellecour, Madame Camus. Je ne dirais combien sa mère était surprise, ne comprenant pas encore la signification de cet hommage rendu à l'œuvre de Camus. Très simplement, sur la table quotidienne, elle repassait une chemise, elle jetait un regard sur la photo d'Albert en disant « Vraiment, je n'aurais jamais cru que ce petit puisse aller si loin. Il a fait tout ce qu'il a écrit et il m'a donné deux petits-enfants. » Ici Alger, à vous Paris.
Bien, il n'y a pas de hasard en matière de radio et nous savons qu'au moment précis où on nous faisait ce tableau, Albert Camus écoutait cette émission et avait pu ainsi avoir des nouvelles directes de sa mère.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, c'est le premier temps d'une série d'émissions sur le silence. Pour l'occasion, c'est d'Albert Camus que nous parlons, en compagnie de la philosophe Marilyn Maizot. Et le silence est aussi le silence de la mère de Camus. On a entendu, suite à l'extrait de L'envers et l'endroit qui décrit ce silence maternel, une archive le 10 octobre 1957 où l'on entend deux journalistes qui vont à la rencontre de la mère de Camus alors que celui-ci vient de recevoir le prix Nobel. Il y a quelque chose d'assez intrusif dans ce son. On sent cette journaliste qui débarque comme ça chez la mère et qui la décrivent de manière très simple en train de repasser une chemise. Mais ce qui est le plus surprenant encore, Marilyn Maizot, c'est qu'elle a l'air de parler visiblement puisqu'elle est, les journalistes relatent sa parole. Donc de quel silence s'agit-il alors si elle parle ?
En réalité, c'est une parole, mais c'est pas forcément la parole à laquelle on s'attendrait de la part d'une maman qui vient d'entendre que son fils vient d'obtenir le prix Nobel. C'est une parole extrêmement simple, d'étonnement, et finalement qui exprime toute son humilité, toute sa simplicité. Donc c'est une parole, mais en même temps c'est un silence parce que un petit peu comme avec le monde, il y a un son, mais c'est pas le son qu'on attendait.
Il m'a fait de beaux enfants, hein, dit-elle.
Ça, il m'a fait deux beaux enfants. C'est-à-dire qu'elle se souvient, finalement, elle ne parle même pas vraiment du prix. Elle parle essentiellement de ce qu'il a été pour elle.
Et alors, jusqu'où tient ce parallèle qu'on peut tracer entre le silence du monde face aux appels des hommes et le silence de la mère face à l'enfant ?
Eh bien, comme on a pu s'en apercevoir à la lecture de ce texte, ce très beau texte, c'est une façon parfaite, je trouve, de rompre définitivement avec l'idée qu'on a d'abord eu un Camus insouciant en Algérie, un Camus de l'enfance qui justement baignait dans le monde, était en harmonie avec le monde, et puis d'un seul coup il a découvert l'absurde, comme nous on le découvre en lisant le mythe de Sisyphe, et là ce fut la rupture, ce fut le divorce. En réalité, ce texte montrait bien que les deux éléments, la rupture, la peur d'un côté, l'absurde, en tout cas pas tout à fait l'absurde, mais les conditions de possibilité de l'absurde, on va le voir, et de l'autre, en même temps, l'amour, le consentement était déjà présent dans ce recueil qui était l'un des premiers textes écrits par Camus, notamment ce passage, ce texte plutôt de L'envers et l'endroit qui s'intitule justement Entre oui et non. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'attitude de la mère et la mère elle-même a un point commun avec le monde, c'est que elle relève de ce que Camus appelle le « c'est comme ça ». C'est-à-dire que, comme il le montre, lorsqu'on l'interroge, à quoi tu penses ? À rien. Et c'est bien vrai, tout est là. Tout est là, il n'y a pas à chercher au-delà, il n'y a pas à chercher derrière le monde, ou de sens derrière le monde, ou de sens derrière la mer, tout est là.
Comme une espèce de présence évidente, inquestionnée.
De plénitude, si vous voulez, dans ce silence qui est une plénitude. Mais en même temps, ce qu'on voit très bien également, c'est que l'enfant qui était Albert Camus est une sorte de Sisyphe en herbe, en tout cas de Sisyphe en devenir. Comme on s'en aperçoit dans le texte, lorsqu'il dit « il a mal à pleurer devant ce silence animal », on voit ici que finalement, l'étrangeté de la mère pour l'enfant, étrangeté qui est douloureuse, hein, il parle d'avoir mal à pleurer, elle fait un petit peu penser à l'étrangeté du monde, donc expérimente l'homme absurde, sauf que, en même temps, on se rend compte que de la même façon que l'étrangeté du monde n'interdit pas à Sisyphe d'être heureux et donc d'aimer le monde pour ce qu'il est, et bien de la même façon, Le silence animal de la mère n'interdit pas à l'enfant de l'aimer, puisqu'il le dit, pour sentir cela confusément. L'enfant croit sentir dans l'élan qui l'habite de l'amour pour sa mère, et il le faut bien parce qu'après tout c'est sa mère. Vous voyez, c'est, y a pas de raison, c'est parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est sa mère, on n'a pas.
Pas là, on entend plutôt une obligation. Il le faut bien parce que c'est sa mère, mais rien ne temps, dit que parce que c'est sa mère, il faut l'aimer. C'est comme s'il se contraignait à cet amour. Il parle de pitié juste avant.
Ça peut être une contrainte. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par contrainte ? Est-ce que ça serait une contrainte du type la contrainte du droit ou de la loi ? Ou est-ce que c'est la contrainte de ce qui est, justement ? C'est-à-dire la contrainte du « c'est ainsi » ou du « c'est comme ça ».
Parce qu'il est assez troublant de le voir s'interroger en disant « il a pitié de sa mère, est-ce l'aimer ?» Et ensuite seulement il en vient à l'amour. Et ce passage de la pitié à l'amour est intéressant. Il montre une évolution possible face au silence même auquel il fait face.
Oui, c'est pour ça que j'ai employé l'image du Sisyphe en herbe. C'est qu'on n'a pas vraiment encore Sisyphe. Déjà parce que on n'a pas tout à fait les conditions de l'absurde. Et d'autre part aussi parce que quand même la différence entre la mère et le monde, c'est que la mère l'aime en retour. Ça c'est aussi important. Le monde ne rend pas l'amour qu'on lui donne. Alors que la mère, comme c'est indiqué dans ce texte, aime ses enfants.
C'est-à-dire que le fait d'avoir eu une mère silencieuse, mais non pas forcément mutique, hein, on l'a vu, même s'il emploie ce terme, hein, le mutisme d'une irrémédiable désolation, a été pour Camus peut-être une façon de s'habituer, de voir de l'amour derrière le silence. C'est-à-dire que sa mère est silencieuse, mais il ne doute pas de son amour. Mais peut-être même que le monde qui est silencieux, y a-t-il une forme d'amour, ou en tout cas d'immanence possible ?
Exactement, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de donner sens à l'amour ou de produire une parole signifiante sur l'amour pour le rendre sonore en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être justement parce que sa mère est silencieuse, qu'elle ne cherche pas à rationaliser ou que lui-même devant elle ne cherche pas à rationaliser, qu'il arrive à rendre sonore finalement l'amour qu'il y a dans ce silence et non pas derrière. C'est dans ce silence même qu'il y a un amour.
Et ce silence, il est animal. Pourquoi compare-t-il le silence de sa mère à un silence animal ?
Eh bien, on peut l'interpréter de différentes façons, mais j'ai l'impression que c'est essentiellement justement pour marquer ici la dimension de rupture entre, d'un côté, l'enfant qui a certaines attentes vis-à-vis de sa mère. Quand on a un enfant, on s'attend à certains comportements, peut-être parce qu'avec les autres enfants et les autres parents, ça se passe comme ça. Et lui, il sent la différence ici, c'est-à-dire que peut-être qu'il avait intuitivement une certaine idée de la façon dont une mère doit se comporter. On le voit dans le texte lorsqu'il dit qu'elle ne le caressait pas. Il s'attend à ce qu'une mère caresse son enfant. Et lui, de ce point de vue-là, c'est comme si finalement il avait l'impression qu'il y avait quelque chose d'inhumain dans sa mère, comme il y a quelque chose d'inhumain dans le monde.
Ce qui le rend plus disposé à accepter ce caractère inhumain. Il est habitué à une forme d'indifférence qui du coup lui pèse moins quand il s'agit de saluer le monde.
C'est ça, c'est pour ça que finalement le Camus du mythe de Sisyphe, ça n'est pas sa première expérience de l'absurde, en tout cas c'est mon sentiment.
On va entendre la voix de Camus lorsqu'il reçoit ce prix Nobel donc de littérature, ce qu'on appelle le discours de Suède, prononcé le 10 décembre 1957 à l'hôtel de ville de Stockholm. Écoutez cet extrait parce que Camus fait référence au silence et surtout à ces hommes silencieux dont il dit qu'il se tient à leur côté. Écoutez.
Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à me tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir et le retour de bref et libre bonheur. Ramené ainsi à ce que je suis réellement, à mes limites, à mes dettes comme à ma foi difficile, je me sens plus libre de vous montrer, pour finir, l'étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m'accorder. Plus libre de vous dire aussi que je voudrais la recevoir avec votre permission, comme un hommage rendu à tous ceux qui, partageant le même combat, n'en ont reçu aucun privilège, mais ont connu au contraire malheur et persécution. Il me restera alors à vous en remercier du fond du cœur et à vous faire publiquement, en témoignage personnel de gratitude, la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai, chaque jour, se fait à lui-même dans le silence.
Qui sont ces hommes silencieux dont parle Camus, Marie-Anne Maïssa ?
Alors là, on on découvre une autre dimension du silence chez Albert Camus. Cette fois, ça n'est plus le silence du monde face aux appels des hommes, ou même le silence du monde que l'on peut apprécier, dont on peut jouir. C'est le silence que l'homme impose à l'homme. À les hommes qu'on a rendus silencieux, à qui on a imposé le silence. Et c'est une dimension, si vous voulez, que Camus thématise en un sens un petit peu comme une sorte d'absurde au carré. C'est-à-dire, de la même façon que le monde reste silencieux face aux appels des hommes, il y a une sorte de récupération de cette logique de divorce qui s'installe au sein même du monde des hommes lorsque certains hommes répondent aux questionnements, aux appels, aux demandes de dialogue d'autres hommes par un silence imposé. Mais justement, ce qui est important, et on s'en apercevra en travaillant les textes où Camus évoque cette thématique-là, c'est que ce silence-là n'a pas le même statut que le silence du monde. C'est-à-dire que le silence du monde, c'est un fait, c'est un donné, c'est comme ça. Le silence que l'homme impose à l'homme, c'est un choix, et c'est un choix qui, à partir de là, ne peut plus être innocent. C'est forcément un choix coupable.
Donc le silence, c'est celui des bourreaux, non pas des victimes.
C'est ça, exactement.
Et pourtant, Camus parle aussi de ces hommes qui n'ont pas la parole, aux côtés desquels il se tient. C'est ceux qui sont réduits au silence.
Absolument. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il parle de, j'emploie l'expression, on va l'entendre dans pas longtemps, l'expression de conspiration du silence. C'est qu'au final, il ne peut pas y avoir de silence imposé sans une forme de consentement. Vous voyez, de nouveau, on retrouve la thématique du consentement. C'est-à-dire que d'un côté, on a ceux qui veulent imposer le silence aux autres. Et de l'autre, on a malgré tout une forme de consentement plus ou moins subi, plus ou moins accepté parfois. Parfois même voulu, de la part de ceux qui se tiennent silencieux.
Alors là, ça paraît très abstrait quand on en parle comme ça. À quoi pense Camus ici dans ce... La voix, le silence de celui qui oppresse et le silence de celui qui est oppressé.
Eh bien, il pense notamment à la façon dont, si vous voulez, non pas un silence brut, mais une parole, en l'occurrence une parole idéologique par exemple, peut s'imposer aux hommes et ne laisser aucune place au silence, c'est-à-dire aucune place à l'apparition d'un discours ou d'une parole qui viendrait contrebalancer cette idéologie. Donc finalement, c'est comme si au silence plein du monde, à la plénitude du silence du monde, s'impose un silence, mais qui est paradoxalement une parole, qui est le silence ou la parole pleine de l'idéologie.
L'idéologie est silencieuse parce qu'elle est sans nuance. On va l'entendre dans le texte, hein, un article que Camus écrit en 46, publié en 48, « Ni victime ni bourreau », intitulé « Le siècle de la peur », où on entend cette dimension plus politique du silence. Mais si on reste encore un instant sur l'archive qu'on vient d'entendre, deux choses qui peuvent interpeller. Camus termine en disant « voilà, le silence est aussi celui de chaque artiste ». En fait, c'est comme, il y a un silence nécessaire à la création, mais aussi l'artiste est celui qui sait qu'il ne suffit pas de conjurer le silence pour dire quelque chose. Là, on retrouve cette idée de chorégraphie entre la parole et le silence que j'évoquais en début d'émission.
Absolument, le silence, c'est aussi un souffle. C'est le fait de reprendre son souffle, de la même façon que dans une mélodie, le silence, c'est aussi important que les notes, parce que c'est ce qui crée un mouvement, et c'est ce qui crée une cohérence, et c'est ce qui permet justement d'écouter, de rendre audible la mélodie. Alors que si on avait une mélodie qui serait un enchaînement de notes sans aucun silence, sans aucun repos, ça serait une forme de cacophonie. Donc pour Camus, le silence, c'est aussi ce qui permet de reprendre son souffle, de revenir à soi, et de prendre le temps de la réflexion avant de reprendre la parole. Donc c'est pas un silence définitif, c'est toujours une sorte de retrait, mais un petit peu comme si vous voulez, il y a un retrait de la lumière pour que la nuit se fasse, puis il y a le retrait de la nuit pour que le jour se fasse de nouveau en fait. C'est un petit peu de nouveau cette dialectique entre l'envers et l'endroit, le jour et la nuit, que l'on retrouve, je pense, avec le rapport de Camus au silence.
Et il évoque la nostalgie qu'on retrouve beaucoup dans ces textes. Et de quoi est-il nostalgique ? D'un avant, d'une période prénatale, à lui qui est tellement dans le monde ?
Alors, la nostalgie chez Camus, elle est aussi, elle est aussi plurielle que le silence. Mais dans l'extrait que l'on vient d'entendre, en réalité, c'est un petit peu la nostalgie d'un rapport au monde qui peut passer par la jouissance, qui ne soit pas simplement comme il l'est parfois, rupture ou divorce, mais qui soit aussi jouissance. Parce que Camus explique, notamment à partir de la fin de la guerre, mais déjà un peu avant, mais ça devient une thématique de plus en plus prégnante après la guerre, c'est que nous sommes entrés dans l'histoire, pour reprendre une expression qu'il emploie à plusieurs reprises, notamment dans les lettres à un ami allemand, et l'histoire finalement nous a happés tout entier et nous a même enlevé cette part de l'homme qui permettait encore le consentement et l'appréciation du silence du monde. Donc au final, cette nostalgie, c'est la nostalgie d'un équilibre, c'est la nostalgie d'une tension entre révolte et consentement qui fait qu'on est obligé d'être entièrement, pour ainsi dire, dans la révolte. parce que on doit défendre cette part de l'homme qui échappe à l'histoire et que l'histoire essaye d'effacer ou de s'approprier.
Reprendre son souffle et savoir ménager le silence pour mieux y apposer quelques notes ou quelques paroles, puis écouter l'artiste à l'œuvre. On va entendre un court extrait de Beethoven, un chant de Beethoven magnifique que vous nous avez suggéré, Marine Maezo, puis le texte d'Albert Camus, Le siècle de la peur, donc ni victime ni bourreau, écoutez.
Le long dialogue des hommes vient de s'arrêter. Et bien entendu, un homme qu'on ne peut pas persuader est un homme qui fait peur. Ce qui fait qu'à côté des gens qui ne parlaient pas parce qu'ils le jugeaient inutile, s'étalait, et s'étale toujours, une immense conspiration du silence, acceptée par ceux qui tremblent et qui se donnent de bonnes raisons pour se cacher à eux-mêmes ce tremblement, et suscitée par ceux qui ont intérêt à le faire. Entre la peur très générale d'une guerre que tout le monde prépare et la peur toute particulière des idéologies meurtrières, il est donc bien vrai que nous vivons dans la terreur. Nous vivons dans la terreur parce que la persuasion n'est plus possible, parce que l'homme a été livré tout entier à l'histoire et qu'il ne peut plus se tourner vers cette part de lui-même, aussi vraie que la part historique, et qu'il retrouve devant la beauté du monde et des visages. Parce que nous vivons dans le monde de l'abstraction, celui des bureaux et des machines, des idées absolues et du messianisme sans nuances. Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison, et que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et dans l'amitié des hommes, ce silence est la fin du monde.
Il est troublant d'écouter ce texte aujourd'hui, Marine Maezo, qui est écrit en 46 donc, et aujourd'hui en 2017, tant les échos semblent certains d'une époque à l'autre, ce constat d'une même terreur qui a eu lieu, terreur qui dont le premier symptôme est le fait que le long dialogue des hommes vient de s'arrêter, nous dit Camus. De quel dialogue s'agissait-il et qu'est-ce qui a fait que ce dialogue s'est arrêté ?
Alors déjà, pour comprendre ce que cela veut dire, un dialogue qui s'arrête, pour rebondir sur le morceau de Beethoven qu'on vient d'entendre, c'est une pièce qui s'intitule Le silence, justement, qui a été écrite pour être chantée en canon, c'est-à-dire chaque personne, tous les chanteurs ne chantent pas en même temps. Et c'est pas simplement parce qu'elle démarre en canon, c'est-à-dire qu'ils ne démarrent pas tous en même temps, mais à l'intérieur, il y a des silences. C'est-à-dire qu'il y a des moments où un chanteur s'arrête de chanter, les autres continuent, puis un autre s'arrêtera et lui reprendra. En fait, le motif, c'est l'idée qu'il faut savoir ménager le silence ou faire silence au moment opportun pour pouvoir écouter. Et c'est en cela que le silence rend possible le dialogue, puisque pour qu'il y ait dialogue, il faut savoir écouter et donc faire silence pour entendre l'autre. Et ça doit être réciproque. Ici, si le long dialogue des hommes vient de s'arrêter, on a presque l'image d'un cœur qui s'arrêtait de battre, en fait. C'est assez troublant. C'est parce que justement, en un sens, il n'y a que du silence, il n'y a plus de silence. Il n'y a plus ce silence qui rend possible l'écoute, mais il n'y a qu'un silence finalement qui est une sorte de cage de plomb qui a été imposée sur les hommes. Notamment, c'est le passage qui précède immédiatement celui qu'on vient d'entendre, parce que, dit Camus, on a perdu finalement cette confiance dans le fait que les hommes peuvent être persuadés, parce qu'ils restent des êtres rationnels, même s'ils ne sont pas toujours raisonnables, et donc ils peuvent être persuadés parce qu'ils peuvent entendre des raisons, ils peuvent entendre des arguments. Or, ce que Camus explique, c'est que nous sommes à l'âge de l'abstraction, et on ne peut pas persuader une abstraction. C'est-à-dire que si les hommes sont devenus des abstractions, en l'occurrence des abstractions idéologiques, par exemple des forces, hein, le grand capital, le prolétariat, etc., Eh bien, ou alors encore, j'ai dit le grand capital et le prolétariat, mais pour prendre de l'autre côté et un petit peu avant, ça peut être la juiverie, vous voyez, la juiverie ou la race aryenne. Les hommes sont devenus des abstractions, les hommes sont devenus des forces, et face à une force, on ne peut pas raisonner, on ne peut que lui opposer une autre force. Donc finalement, c'est ce silence, c'est de ce silence-là dont il est question. Et ce qui est intéressant, c'est que comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est un silence fabriqué. C'est un silence qui est à l'opposé du silence dont on vient de parler auparavant. C'est un silence qui est fabriqué de main d'homme. Et c'est un silence par lequel, finalement, l'homme essaye, en tout cas certains hommes, essayent de se substituer au monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette tentative de substitution, en un sens, c'est une mascarade pour Camus. C'est une mascarade pour une raison toute simple, c'est que l'homme ne peut pas être le monde. Alors l'homme ne peut pas être le monde. Il peut pas être le monde parce que le silence du monde, c'est une absence de sens. Or, justement, dans le silence des hommes qui imposent l'idéologie aux autres, on n'a pas une absence de sens, mais la conviction d'avoir raison, c'est-à-dire le fait de vouloir garder le sens pour soi et de vouloir finalement s'en faire le dépositaire jaloux. Donc c'est même le contraire du silence du monde. Il y a du sens, mais il est à moi, j'en suis le seul dépositaire, je suis le seul à pouvoir le comprendre et le transmettre, comme une sorte de sainte parole, finalement. Et d'autre part, l'autre raison, c'est parce que, l'homme, contrairement au monde, a besoin de sens. Oui, c'est la contradiction, finalement, des idéologues. C'est que d'un côté, on impose un silence, et de l'autre, on ne peut pas vraiment s'imposer à soi-même ce silence parce qu'on a besoin de parler, on a besoin de faire sens. C'est pour cela, d'ailleurs, que même dans ce silence le plus radical qui est le meurtre, dans cette violence la plus absolue qui est le meurtre, on retrouvera une parole cherchant à justifier une idéologie meurtrière, ce qui donne notamment ce monstre oxymorique qui est l'idée même de crime logique au final. Parce que c'est un oxymore en soi, un crime logique. Le crime, le meurtre, la violence, c'est ce qui vient interrompre la parole, ce qui vient contrecarrer la raison, et en même temps la raison se met au service de ce qui la nie. Et c'est cette contradiction qui montre finalement que la contradiction qu'il y a à vouloir imposer un silence comme si on était le monde, mais sans pouvoir justement se faire monde.
Mais comment faire du coup pour se construire un sens, pour rendre le monde vivable, puisque tout le monde n'a pas la sagesse nécessaire pour accepter le monde dans son indifférence et dans son silence, sans tomber dans l'idéologie? Est-ce que toute tentative d'assigner un sens aux choses est une idéologie pour Camus?
Bien, assigner un sens aux choses, en fait ça dépend ce qu'on appelle assigner. Je pense que le vrai risque, hein, le véritable écueil, c'est à partir du moment où on prétend le trouver dans les choses. C'est l'objectivité en fait, hein, c'est aussi le siècle de l'objectivité pour Camus, le siècle de la peur. C'est à partir du moment où on prétend par exemple être le dépositaire du sens de l'histoire. Ça n'est pas moi qui interprète l'histoire comme ça, c'est l'histoire qui est comme ça. Ça n'est pas moi qui vous le dis, c'est ainsi. Vous voyez, c'est une façon de finalement de nouveau de violer et de d'instrumentaliser le c'est comme ça. On a le c'est comme ça du monde, qui effectivement est un c'est comme ça véritable, et puis on fait un c'est comme ça, l'histoire c'est comme ça, la violence c'est comme ça, c'est aussi Camus, c'est un motif qui le fascine et qui l'obsède. De toute façon, la violence est un donné, donc arrêtez d'être une belle âme, arrêtez de faire comme si la violence était évitable, parce que tout le monde considère que Camus est un non-violent ou un pacifiste, ce qui est absolument faux. Mais justement, si vous voulez, ce qui m'intéresse ici, c'est le discours qu'il y a derrière, c'est de toute façon c'est comme ça. Or, justement, ce qu'explique Camus, c'est que lorsque on prétend imposer un sens aux choses, mais non pas comme si on le fabriquait soi-même, mais comme si on les trouvait tout près, on se fourvoie. Je pense que la meilleure façon d'éviter cet écueil, c'est justement de garder en tête le fait que c'est nous qui poussons le rocher, c'est pas le rocher qui se pousse tout seul, et que donc c'est nous qui mettons du sens dans les choses, c'est nous qui donnons du sens aux choses, parce qu'effectivement on en a besoin pour avancer et pour vivre, mais qu'à aucun moment on ne peut l'imposer aux autres, parce que par définition c'est une création.
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de monde commun? C'est-à-dire qu'il y a une forme de relativisme où il n'y a pas d'objectivité, et chacun croit en quelque chose, mais il n'a pas le droit de l'imposer aux autres, donc du coup, où nous rejoignons-nous? Qu'est-ce qui reste du monde?
Relativisme, non, parce qu'il y a quand même quelque chose en commun, justement, c'est ce besoin, si vous voulez, de faire sens, et ce besoin de dialoguer. En fait, comment Camus fait pour contrecarrer cette tentation du silence, mais du silence idéologique, si j'ose dire, en essayant malgré tout, coûte que coûte, et à grands efforts, parce que ça prend beaucoup d'énergie, de maintenir le dialogue. Ça, il y a un texte qui le montre de manière merveilleuse, ce sont les lettres à un ami allemand. C'est un texte qui est trop peu connu, trop peu lu. Qu'est-ce que c'est, les lettres à un ami allemand? Déjà, quand on y réfléchit, ça s'intitule les lettres à un ami allemand. Donc, ce sont des lettres que Camus écrit à un destinataire fictif qu'il appelle l'ami allemand. Mais elles ne sont pas intitulées « Lettres à un ami nazi ». Ça, c'est fondamental. Pourquoi ne pas les intituler Lettres à un ami nazi? Parce que justement, Camus refuse de parler d'une abstraction ou de créer des abstractions. Il vit au monde de l'abstraction, à l'âge de l'abstraction. Il n'a pas besoin qu'on en crée plus, si vous voulez. Or, il avait intitulé son livre Lettres à un ami nazi, ce qui serait pourtant pas faux, puisque l'Allemand en question est nazi. Il est totalement voué à l'idéologie nazie. S'il s'était adressé un ami nazi, automatiquement, on aurait collé sur cet homme une étiquette, on aurait fait une abstraction, et à partir de là, la seule réponse possible, c'est la violence. Puisque ça serait devenu une sorte de faisceau de force avec qui on ne peut pas dialoguer. Pourquoi Camus, justement, lui, dit un ami allemand? Et pourquoi il maintient surtout ami? Parce qu'au final, le paradoxe de ce texte, c'est que c'est une lettre de rupture. On écrit un ami pour lui dire qu'on ne peut plus lui parler. Donc on lui parle pour lui dire... Pourquoi on va arrêter de lui parler? Mais pourquoi c'est fondamental de faire ce geste? Pourquoi pas simplement le tuer, puisque de toute façon c'est ce qui va devoir arriver? Pourquoi passer d'abord par la parole? Eh bien c'est parce que pour Camus, aujourd'hui, la seule chose qui peut nous sauver, ce sont les nuances.
Il le dit dans le texte, les idées absolues du messianisme sans nuance, oui, comme étant l'ennemi numéro un.
Voilà, c'est-à-dire que la seule façon de conjurer finalement cette conjuration du silence, c'est de retrouver le sens de la nuance. Qu'est-ce que c'est le sens de la nuance? C'est par exemple quand il explique dans ses lettres à son ami allemand, à son ancien ami allemand, en fait j'avais besoin moi-même de me dire comment, alors même que comme vous, je vais vouloir vous tuer. Parce que si je ne vous tue pas, vous tuerez des innocents. Alors comme vous, je vais m'adonner au meurtre, alors même que le meurtre me répugne. Qu'est-ce qui me différencie de vous finalement? Si au final nous sommes deux meurtriers, où est la différence? Où est la nuance? La nuance, c'est que justement, je vous tuerai en tant qu'individu, en sachant tout ce que ce meurtre a de terrible, avec crainte et tremblement, je vous tuerai s'il le faut. Mais je ne chercherai aucune justification, et surtout aucune justification idéologique. Je ne m'abaisserai pas à instrumentaliser la raison pour rendre compte de ce qu'il a nié par essence. Et justement, cette nuance, elle se manifeste déjà en soi par l'existence de ce livre, Lettre à un ami allemand. C'est-à-dire, il faut, même avec l'ennemi, et même avec celui dont on a l'impression qu'on n'a plus rien à en tirer, pas même une parole sensée, il faut malgré tout discuter avec lui, parce que justement, discuter avec lui, c'est le forcer à reconnaître une chose toute simple, qui est que on n'a pas affaire à des forces, on n'a pas affaire à des abstractions, on a affaire à des personnes qui restent des personnes capables d'entendre. Vous voyez, les personnes qui finalement n'entendent plus, c'est parce qu'elles refusent d'écouter. Mais le fait est que l'ami allemand lui-même, il parle dans ses lettres. Ce n'est pas un échange épistolaire, hein, c'est Camus qui parle. Mais Camus dit à plusieurs reprises « vous me dites que » ou « vous soutenez que ». Donc en fait, c'est comme s'il y avait eu des lettres de l'ami allemand qu'on n'a pas dans le texte mais qu'on devine. Et l'ami allemand justifie l'idéologie nazie. Donc vous voyez, il tient un discours, il essaie de convaincre son interlocuteur. Et c'est là sa contradiction. Parce que là où Camus essaye de maintenir le dialogue, parce que justement lui reconnaît le fait qu'il y a ce monde commun qui passe par le dialogue, l'ami allemand lui fait comme si il était dépositaire du sens et la seule solution possible était la rupture, mais en réalité il ne peut pas s'empêcher de se justifier. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait.
Donc il y a deux conclusions à tirer de ce texte de Camus. La première, c'est d'en appeler à une absence de censure, liberté d'expression totale, y compris les propos les plus haineux, les plus choquants, les plus idéologiques au sens camusien du terme. Et deuxièmement, la nécessité absolue de répondre à ces propos encore et toujours.
Absolument, parce que c'est vrai qu'une tentation qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est pour ça que Camus est plus que jamais contemporain, c'est que tout le monde vante la liberté d'expression, mais elle a parfois tendance à devenir, parce que c'est un glissement, c'est une pente inévitable presque, naturelle, elle a tendance à devenir la liberté d'expression pour ceux qui s'expriment comme nous en fait, liberté de penser comme nous si vous voulez. Or justement, même avec l'ennemi, celui qui est notre ennemi juré, celui qui pense le contraire de ce que nous pensons, il est important de maintenir pour lui la même exigence de liberté de penser qu'on a pour nous, ne serait-ce que parce que justement, le problème à vouloir à tout prix le faire taire, c'est qu'ensuite on considère qu'il n'est pas nécessaire de lui répondre, comme si finalement personne ne l'entendait. Vous voyez, il est inaudible, il est inintéressant, il a tort, j'ai raison, donc c'est pas la peine de lui donner une tribune, en fait. C'est ce qu'on entend très souvent. Comment osez-vous donner une tribune à un tel alors que vous vous rendez compte de ce qu'il raconte? Mais justement, il est important de faire entendre ses paroles parce qu'on ne peut répondre qu'à une parole qu'on a entendue. Et il est important de répondre à ses paroles parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec cette parole qu'elle n'est pas entendue par d'autres et qu'elle ne germe pas, si vous voulez. Ça, c'est une thématique qui sera notamment fondamentale pour comprendre la peste. À savoir qu'on s'imagine au début de la peste que voilà, on a une épidémie de peste et c'est pour ça que le roman s'appelle comme ça. En lisant la fin de la peste, on comprend qu'en réalité, l'épidémie, elle était là depuis bien plus longtemps. Elle était là depuis bien avant les premiers rats et qu'en réalité, les premiers germes de la peste, c'est justement l'imposition d'un silence comme une chape de plomb qui se fait jour en fait.
On voit aussi que Camus écrivait bien avant la naissance de Twitter et des réseaux sociaux qui permet à chacun de s'exprimer, mais en bonne logique camusienne, il faudrait répondre à chacun des propos tenus idéologiques, haineux, et dialoguer avec ces gens-là.
Oui, absolument, mais de la même façon que Camus, les critiques et les attaques qu'il recevait à l'époque un petit peu préfigurent ce qui se passe sur Twitter quand vous osez donner la parole à celui qui ne pense pas comme vous. De toute façon, le principe, si vous voulez, c'est important aujourd'hui, et je voudrais qu'on termine là-dessus, c'est que Camus parlait, et notamment dans le texte qui nous intéresse, une époque de guerre froide. Une époque où il n'y avait pas de troisième camp, en fait. On était soit pour le camp des démocraties libérales, soit pour le camp soviétique. Camus a critiqué bien avant Sartre, par exemple, les démocraties libérales, notamment la colonisation dans Misère de la Kabylie. Il a critiqué dans les articles de combat la république bourgeoise qui a trahi ses promesses en France. Donc, il a fait tout ça bien avant certains autres. Mais en même temps, parce qu'il écrit L'homme révolté en 51 et qu'il s'attaque à ce qu'il considère comme la menace primordiale à ce moment-là qui est le régime soviétique, on considère que parce qu'il ose critiquer le régime soviétique, qu'il le veuille ou non, il se fait l'allié de l'autre camp. Et ça, c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on part du principe que si on critique un camp, alors même que la critique est légitime et que le camp a fauté, eh bien, il faudrait finalement taire cette critique parce qu'en le faisant, on fait le jeu du FN, on fait le jeu de tel ou tel camp auquel on s'oppose. Or, justement, ce qui, je pense, sera fondamental de comprendre pour notre époque, c'est que la seule façon véritable de faire le jeu de l'ennemi, c'est justement d'accepter la loi du silence, qui est la loi de l'ennemi.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence.
Le bruit du silence, le son du silence, c'est Paul Simon qui le chante sans Garfunkel. C'est donc le silence de Garfunkel aussi qui nous accompagne en cette fin d'émission. Un grand merci à vous, Marlene Maeso.
Merci de m'avoir reçu.
D'être venu nous parler de Camus aujourd'hui. Je rappelle que vous enseignez la philosophie à Nice, vous êtes à l'Université de Nice, et que vous préparez une thèse doctorante sur la fabrique de l'inhumain, dans laquelle il sera évidemment beaucoup question de Camus. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, Paul Simon, c'est Q, place non pas au silence, mais aux 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez d'un livre qui vient de paraître, et aujourd'hui je vois un joli petit livre rouge devant vous.
Oui, c'est
mais c'est pas Mao.
Non, ça n'est pas Mao, c'est un tout petit livre, c'est écrit par Vincent Morque, le titre c'est Exclu, aux marges et aux confins. Il est paru aux éditions des Belles Lettres dans la collection Tibi, une collection, je cite la présentation, de petits pamphlets insolents et insolites de la vie, de courts essais contre le présent et l'air du temps qui nous étouffe et nous donne envie de fuir. Eh bien insolite, c'est le cas de ce livre puisqu'on y trouve à la fin, on peut d'ailleurs peut-être commencer par cette fin, on y trouve un texte de Synésios de Cyrène, un grec du IVe siècle à avant notre ère, et on y trouve donc son génial éloge de la calvitie. Alors que la chevelure est célébrée, nous dit Synésios, parce qu'elle participe à la beauté, lui, justement, Synésios, s'est trouvé dévasté le jour où il a commencé à perdre la sienne. Comment assumer ce signe, ou cette absence de signe, cette nudité du crâne qui l'exclut de fait de la société? Bien, le cas de Synésios est intéressant parce qu'il va faire plus qu'assumer sa calvitie. Avec cet éloge, il va la revendiquer. Il clame ce qui le met en marge du reste des communs, des mortels, du moins des communs chevelus. Autrement dit, il se fait un marginal volontaire. Et là, eh bien, ce qui intéresse Vincent Mork pour son propos sur les exclus aux marges et aux confins, et là, eh bien, la dimension révoltée de son essai contre l'air du temps. Alors, pas seulement pour tous les chauves qui pourraient s'y retrouver aujourd'hui, mais surtout pour se demander jusqu'où chacun peut-il assumer de ne pas être dans les normes, de se situer aux marges. Si l'on pointe la servitude volontaire, est-il à l'inverse si facile d'être dans la marginalité volontaire? Finalement, quand on y pense, il existe peu de vrais rebelles. Socrate en a été un, Spinoza aussi, qui a été exclu de sa communauté. Solzhenitsyn, bien sûr, il y en a d'autres. Mais entre les vrais rebelles et la posture rebelle, bien plus courante, entre les marges et le centre, qui s'étend désormais jusqu'à même englober les extrêmes, il y a un monde, celui qu'explore Vincent Mork ici, et qui nous met face à des limites imposées. Jusqu'où suis-je prêt ou pas à les dépasser? Jusqu'où aussi faut-il les conserver pour pouvoir justement les dépasser?
Je suis sûre que cet éloge de la calvitie parlera à bien des gens. Merci ben Géraldine. J'espère. Le livre...
C'est donc « Exclus aux marges et aux confins » de Vincent Mork. C'est dans la collection Tibi aux belles lettres.
C'est noté. Merci beaucoup Géraldine. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur le silence. Demain, nous parlerons de cinéma, car figurez-vous que le cinéma n'a jamais été aussi silencieux que depuis qu'il est devenu parlant. Ce sera José Moore, professeur en études cinématographiques, qui viendra nous en parler. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission consacrée à Camus en compagnie de Marilyn Maezou, eh bien c'est facile. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Twitter et Facebook des Chemins où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. Un grand merci à Nicolas Bouteloup qui a préparé cette émission, ainsi qu'au reste de l'équipe des Chemins, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Marianne Chasseur, Livia Garrigue, Antoine Ravon, Nicolas Berger à la réalisation cette semaine et Lise Le à la prise de son aujourd'hui.